acte de solidarité pour une heure, pour pas pour une heure, pour deux heures quand même, hein, ou pour le moment. En tout cas, c'est ce qu'ils appellent les bénévoles d'un jour. Vous pouvez les rejoindre en allant sur le site collecte.restoducœur.org et vous y inscrire et participer à cet élan solidaire, au moins sur ces temps-là. Rejoignez les Restos du Cœur, ça peut pas faire de mal. Nous, on vous souhaite une bonne journée. Restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cool.
Il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Bienvenue si vous nous rejoignez. RFI vous donne la parole. Dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité. Et dans 40 minutes, nous parlerons de votre pouvoir d'achat à l'approche du Ramadan. Constatez-vous déjà une hausse des prix des denrées alimentaires? Mais d'abord, le journal international. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Juan Gomez. Et à tout de suite, il reste un peu plus de 2h30 avant la fermeture des bureaux de vote au Bangladesh. Scrutin législatif crucial dans le 8e pays le plus peuplé au monde. La succession de l'ancienne première ministre Sheikh Hasina est en jeu. Reportage à la sortie des bureaux de vote à suivre dans la capitale Dhaka. Donald Trump insiste auprès de Benjamin Netanyahou sur la poursuite de discussions avec l'Iran, des discussions qui doivent comprendre le programme balistique iranien, selon l'État hébreu. Nous ferons le point sur les stocks de missiles de Téhéran. C'est une enquête choc menée par le collectif All Eyes on Wagner sur le recrutement de soldats africains, parfois à leur insu, pour se rendre sur le front ukrainien. Une liste de 1400 noms, dont 335 morts, a pu être établie. Et puis enfin, les maires de France en première ligne face au dérèglement climatique, alors que les élections municipales approchent à grands pas dans l'Hexagone. C'est tout simplement le 8e pays le plus peuplé au monde qui vote aujourd'hui. 127 millions de Bangladais appelés à se rendre aux urnes ce jeudi pour des élections législatives cruciales. Le premier scrutin depuis la destitution et la fuite de la première ministre Sheikh Hasina. C'était à l'été 2024 après le soulèvement de la Gen Z, une révolte étudiante réprimée dans le sang et qui avait fait 1400 morts. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h30, heure locale. Il est désormais un peu plus de 14h au Bangladesh. La participation sera l'un des grands enjeux de l'élection. Reportage Abdoulaye Rally.
L'affluence varie selon les quartiers. Sur les 2000 bureaux de vote que compte la capitale, certains sont presque vides, tandis que d'autres font face à d'importantes files d'attente. Ahmad Hakim, 65 ans, est un ancien fonctionnaire. Pour lui, ce scrutin marque un renouveau.
J'ai beaucoup voté, mais pas ces 15 dernières années.
About 15 years we didn't vote.
So, pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui?
Voting is right.
Pouvoir voter, c'est un droit, c'est une responsabilité. Mais pendant une longue période, c'était vain. Mais cette fois, c'est très sérieux. Maintenant, on veut un changement.
Dans la file d'attente qui s'étire du couloir de l'école jusque dans le jardin, Rafsan attend son tour. À 20 ans, il appartient à cette génération Z qui a porté le soulèvement de juillet 2024.
J'étais excité hier soir à l'idée de pouvoir voter comme il faut, sans injustice. Oui, c'est mon heure.
Ce scrutin fait office de test pour la transition démocratique au Bangladesh, avec en toile de fond la charte de juillet, inspirée du soulèvement de juillet 2024. C'est un projet de réforme constitutionnelle pour garantir l'alternance politique. Abdullah Erali, Dhaka, RFI.
Et pour tourner la page du régime autoritaire de Sheikh Hasina, deux formations se font face. Les nationalistes du BNP, favoris d'élection, et les islamistes du Jamaat-e Islami, longtemps mis à l'écart du jeu politique, mais alliés de certains leaders étudiants, les bureaux de vote qui sont encore ouverts pendant 2h30 au Bangladesh. Une septième à huis clos, Benjamin Netanyahou, de nouveau reçu par Donald Trump pour la septième fois depuis le retour du milliardaire républicain à la Maison-Blanche. Une rencontre cette fois-ci sans la présence de la presse. Benjamin Netanyahou a annoncé qu'Israël allait rejoindre le Conseil de la paix de Donald Trump, dont la première réunion entre dirigeants doit se tenir dans tout juste une semaine à Washington. Le président américain qui a lui dit vouloir insister sur sa volonté de poursuivre les discussions avec l'Iran. Le premier ministre israélien a demandé à Donald Trump de prendre en compte les besoins sécuritaires israéliens dans ses pourparlers. Des pourparlers justement qui ont débuté le 6 février à Oman, Washington et Téhéran qui disent vouloir poursuivre le dialogue, l'Iran qui ne veut parler que de son programme nucléaire, tandis que les États-Unis aimeraient ouvrir d'autres dossiers, notamment celui des missiles iraniens et celui des fameux proxys, les alliés de Téhéran comme le Hezbollah et les Houthis du Yémen. Hors de question d'un accord sans englober ces aspects pour Israël. Le sujet des missiles est particulièrement sensible. On fait l'inventaire des stocks iraniens avec Nicolas Falaise.
Le stock de missiles balistiques de l'Iran a été largement entamé par la guerre de juin dernier. Les frappes israéliennes ont détruit au sol plusieurs centaines de ces engins et à peu près autant de missiles ont été tirés par l'Iran, dont certains ont atteint leur cible en Israël. Ces dernières semaines, des sources diplomatiques européennes et israéliennes s'accordaient sur la même estimation. À l'issue de la guerre, la République islamique disposait encore d'un millier de missiles balistiques et depuis, elle a déjà en partie reconstitué son stock avec plusieurs centaines d'unités produites. Ce mercredi, alors que l'Iran célébrait l'anniversaire de la révolution islamique, des missiles longue portée ont été symboliquement déployés sur la place Azadi de Téhéran, un étalage de puissance militaire habituel lors des défilés officiels, mais qui résonne dans un moment particulier où les États-Unis comme Israël veulent imposer une limitation très stricte au programme balistique de l'Iran. Officiellement, Téhéran rejette l'idée même de négocier son arsenal de missiles pour des raisons de souveraineté comme de dissuasion, dans un moment où la République islamique apparaît menacée comme jamais auparavant.
Explication de signé Nicolas Falaise du service international de RFI. 9h05 ici à Paris, l'actualité africaine ce matin, c'est d'abord Madagascar et le passage du cyclone Guezani qui a fait au moins 31 morts à Tamatave. L'actualité africaine, c'est aussi le business du désespoir ce jeudi, titre du dernier rapport d'All Eyes on Wagner, groupe d'enquêteurs qui s'est penché sur le recrutement de combattants africains par la Russie. Certains sont piégés, signent de faux contrats et se retrouvent au front de la guerre en Ukraine. Ce rapport s'appuie aussi sur une liste inédite de 1400 recrues, dont 335 sont mortes au front, comme nous l'explique Lou Osborne, membre de All Eyes on Wagner.
On a eu accès à plusieurs listes. Elles viennent principalement de partenaires d'ONG ukrainiennes. On les a rassemblées et on les a vérifiées. La manière dont elles se présentent, c'est on a une première partie de la liste qui sont donc les combattants aujourd'hui actifs. On voit leur nom, on voit leur date de naissance, on voit leur matricule militaire, on voit la date d'engagement sur le front et on voit leur nationalité. Et puis, on a une liste qui nous paraît vraiment importante, qui est la liste de ceux qui ont été tués. Et donc là, on a pareil un nom, un matricule, une nationalité, une date de naissance, une date d'engagement et une date enregistrée de décès.
Pourquoi publier cette liste? Quel est l'objectif?
Nous, aujourd'hui, on veut la publier parce qu'on pense qu'elle est d'intérêt public. Il y a plusieurs familles qui cherchent aujourd'hui leurs proches, qui ne savent pas ce qui est advenu d'eux, en fait. On pense que c'est vraiment important qu'ils aient accès à cette information.
Lou Osborne avec François Mazet, entretien à retrouver en intégralité dans Afrique Midi à partir de 12h30, temps universel. L'Ukraine, par ailleurs, où 2600 immeubles se retrouvent sans chauffage ce matin après une série de frappes de la Russie cette nuit. La Russie qui s'en prend aux utilisateurs du réseau social WhatsApp, c'est ce que dénonce le groupe Meta, propriétaire de l'application, qui estime que les 100 millions d'utilisateurs russes se retrouvent empêchés de communiquer. Et puis enfin, les émissions de CO2 stagnent, voire baissent en Chine. C'est en tout cas le résultat d'une étude pour l'année 2025. Le pays reste le premier émetteur de gaz à effet de serre au monde et le changement climatique face auquel les élus locaux sont en première ligne. En France, 9 maires sur 10 se disent concernés et disent avoir pris en compte la transition énergétique lors de leur mandat qui arrive à leur terme le mois prochain. C'est ce que révèle l'étude menée par Shift Project qui a interrogé 1 millier de maires en France, rapport qu'a épluché pour nous Stéphanie Schuller.
Il a fallu la grande consultation des élus municipaux menée par le Shift Project pour en finir avec certaines idées reçues. Non, la transition écologique n'est pas avant tout l'affaire des citadins. Les élus des zones périurbaines et rurales se disent engagés de la même manière que leurs collègues dans les villes. Et non, la transition n'est pas non plus une affaire d'idéologie, car les maires, de droite comme de gauche, s'engagent avant tout dans la transition par pragmatisme. C'est ce qu'explique Jason Sagnier du Shift Project.
Ce qui est, selon eux, le plus pertinent, c'est ce qui va avoir un impact direct sur la population. C'est rénover les bâtiments de la collectivité, y compris les bâtiments scolaires. C'est aider à la rénovation des logements et c'est développer des infrastructures pour la mobilité. En revanche, tout ce qui est lié à réaliser les bilans de gaz à effet de serre, c'est jugé comme moins pertinent.
Plus de 8 maires sur 10 se disent très préoccupés par les effets du changement climatique. 7 sur 10 s'inquiètent de la dépendance aux énergies fossiles et 53% qualifient la préservation de l'environnement comme l'une des priorités de leur mandat, bien avant les enjeux fiscaux et sécuritaires. Ce qui les empêche de faire plus pour la transition, ce n'est pas tant le risque électoral qu'une surcharge de travail ou encore le manque de moyens et de compétences. Et ils se disent frustrés par l'instabilité réglementaire qui complique largement la planification de la transition dans leur municipalité.
des municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars prochains en France. L'actualité en France toujours, accompagnée de vents dépassant 160 km/h. La tempête Nils a balayé le pays dans la nuit de mercredi à jeudi, avec au moins un mort, un routier tué accidentellement dans les Landes et 850 000 foyers privés d'électricité, selon les autorités et selon l'opérateur Enedis. Allez, on termine aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina, la France qui remonte à la 6e place au classement. Les Français ont remporté 4 médailles hier, dont 2 en or, grâce à Julia Simon en biathlon et grâce au couple Guillaume Cizeron, Laurence Fournier-Baudry en patinage artistique. Déjà vainqueur en danse rythmique, ils ont aussi remporté le programme de danse libre hier. C'est la Norvège qui est toujours en tête du classement des médailles. Les États-Unis et l'Italie complètent le podium. Allez, tout chose jusqu'à la piste d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez qui chausse les skis.
Exactement. Et je ferai attention. Merci Martin Guez. Bonne journée. 9h10 à Paris, 8h10 en temps universel. On revient dans 30 secondes à la radio et sur YouTube.
Quelle distance vous sépare des 49 journalistes actuellement détenus en Russie? 30 000 ou 5 000?
cette idée géniale. J'ai laissé carte blanche à Gérard, et je dois dire que c'est pas du tout ça que j'attendais. Non, au début, l'idée était intéressante de présenter des jeunes un peu différents, mais alors ça, non. Alors ça, moi, je suis comme vous, hein. C'est beaucoup trop choquant. Non, ça, vraiment, Gérard, t'as dû m'en parler. Hein.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
The bad news is that everyone is a potential victim. But the good news is that everyone is a potential solution. Sensitize the masses to sanitize. Keep a social distance and quarantine.
Stop! The coronavirus is sweeping over mankind.
Everybody must be alert. It's a global pandemic we can never take for granted. Ilamutu must be alert. It's a matter of life we can never take for granted. Discipline and personal hygiene, and make sure you regularly wash your hands. Keep a distance from everyone. Report anything like a symptom. Serious fever is a symptom. Dry cough is a symptom. Walk with Tamula is a symptom. Itchy eyes and flu is a symptom.
Que je suis de mauvais poil, encore une année de plus. Et putain mec, j'ai rien vu passer. Mais je ne suis pas nostalgique, même si mon enfance était vraiment loin d'être nul à chier. Fier d'être un homme, d'avoir grandi. Fini le temps où je matais Batman en slip. Pas non plus pressé d'atteindre 40 piges. Et à ce qui paraît, bah ça vient vraiment vite. Et la montre s'active comme les traits deviennent ternes. Plus je vieillis, plus la planète est crade. Et je me dis, que vais-je faire? En réponse à ça, je fais que gratter des phases en rappeur de l'extrême. Je n'attends plus de surprise de la vie d'ici bas. Même si je m'ennuie, l'existence me plaira. Je pense au repos, j'appréhende ce qu'il y a. Car la paix éternelle, je ne la mérite pas pour l'instant. Et Dieu seul sait l'issue de tout ça. Mais avant, il faut que je fasse preuve de courage et que j'avance. Surtout ne jamais mettre mon âme à vendre. Ne pas laisser le mensonge me mettre à l'amende. Non, j'ai foi en la rédemption. Rien n'est figé, mon vieux. Les petits merdeux ne deviennent pas forcément des grands cons. Et dans le fond, on est tous asservis par le même mal. Ce même orgueil qui nous dégrade. Ce manque de rigueur qui nous dépasse. Et qui bien souvent fait de nous des nazes. Néfaste et vénale. Et la nature humaine, elle a ça en elle. Et ne peut pas combattre sans le ciel. Oublions nos égos et nos mentalités sombres à l'ancienne. Néfaste et vénale. Et la nature humaine, elle a ça en elle. Et ne peut pas combattre sans le ciel. Oublions nos égos et nos mentalités sombres à l'ancienne. Si demain ça pète, il faut que je sois prêt. Une vie sans PC ni même feuille de papier. Très peu dans l'assiette, pourrais-je m'en contenter. Et me persuader que c'est mieux de vivre dans la dèche. Tout me retient, je ne suis pas sans attache. Force à tous mes proches qui se butent au travail. Qui se réveillent et qui supportent la maille. Je donne ça à tous mes champions sans médaille. Si demain ça pète, il faut que je sois prêt. Une vie sans PC ni même feuille de papier. Très peu dans l'assiette, pourrais-je m'en contenter. Et me persuader que c'est mieux de vivre dans la dèche. Tout me retient, je ne suis pas sans attache. Force à tous mes proches qui se butent au travail. Qui se réveillent et qui supportent la maille. Je donne ça à tous mes champions sans médaille. Néfaste et vénale et la nature humaine, elle a ça en elle. Et ne peut pas combattre sans le ciel. Oublions nos égos et nos mentalités sombres à l'ancienne. Néfaste et vénale et la nature humaine, elle a ça en elle. Et ne peut pas combattre sans le ciel. Oublions nos égos et nos mentalités sombres à l'ancienne. Un 989, un bébé qui chiale. C'est moi qui nais durant le mois de mai. Bien loin du pays des cigales. Ici c'est parfois la grisaille qui ponctue l'été. Peut-être pour ça que je suis de mauvais poil. Encore une année de plus. Et putain mec, j'ai rien vu passer. Mais je ne suis pas nostalgique. Même si mon enfance était vraiment loin d'être nul à chier. Fier d'être un homme, d'avoir grandi. Fini le temps.
Principe Actif, le mix des cultures.
Next, take one.